Dans le podcast de la semaine dernière qui s'intitulait « Les pouvoirs du si », Sophie a posté un commentaire que je vous soumets et qui fait l'objet de la question de ce podcast du jour. Elle dit « Merci Pascal, dans ton podcast j'ai été marqué par le caractère éphémère du présent que tu dis suspendu dans le temps et faisant déjà partie du passé pendant le déroulement de l'événement. Je trouve que cette prise de conscience n'est pas facile à intégrer. Est-ce que ça pourrait vouloir dire que le présent compte beaucoup moins finalement ?» Alors j'ai choisi de m'arrêter sur ce podcast pour répondre à la question de Sophie, parce que je pense qu'elle mérite un vrai développement. C'est la raison pour laquelle je vais m'arrêter aujourd'hui sur les temps du bonheur, le passé, le futur et le présent, pour mieux savoir comment utiliser ces trois temps et leurs missions respectives pour créer notre bonheur. Je m'appelle Pascal Kionkion, votre coach thérapeute, praticien en relation d'aide, et je vous accompagne aujourd'hui pour que vous viviez votre vie en mieux. Bonjour les heureux, bonjour les heureuses, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous aujourd'hui qui peut-être se produit en partie grâce à Sophie, que je remercie d'ailleurs pour son commentaire. J'en profite pour vous dire que si vous voulez poser des questions dans les commentaires et que j'estime, comme c'est le cas aujourd'hui, que cette question peut faire le sujet d'un podcast, eh bien je me ferai un plaisir de le faire, hein, tout simplement, même si je vous réponds ne serait-ce que partiellement dans les commentaires du podcast. Alors, ce qui a amené Sophie à poser cette question, c'est que dans le podcast de la semaine dernière, « Les pouvoirs du si », j'ai écrit ceci, ou j'ai dit ceci, parce que je l'ai retranscrit également par écrit pour ceux qui préfèrent lire plutôt qu'écouter les podcasts. Voilà ce que j'ai dit. « Je ne peux rien changer au présent, parce qu'en réalité, si je prends la mesure rationnelle de ce qui se passe, l'événement présent, au moment où il se déroule, fait déjà partie du passé. » Ça veut dire que ce que je suis en train de vous dire là, maintenant, est déjà dans le passé. Vous voyez que le présent est suspendu à rien. C'est vraiment aidant de prendre la mesure pour réaliser à quel point les événements ne sont pas modifiables. Nous pouvons intégrer que pour se libérer, mieux vaut accepter les choses telles qu'elles sont. Fin de citation. Ça fait drôle de se citer soi-même, mais voilà, c'est ce que j'ai mis dans le podcast de la semaine dernière. Et qui a poussé Sophie à poser la question, est-ce que ça pourrait vouloir dire que le présent compte beaucoup moins, finalement, beaucoup moins, ça sous-entend une comparaison, peut-être que beaucoup moins que le futur ou que le passé. Alors, avant de répondre à la question, ou plutôt pour mieux répondre à la question de Sophie, je pense qu'il est judicieux de s'arrêter sur les trois temps en question, à savoir le passé, le futur et le présent, afin de mieux les comprendre. Qu'est-ce que c'est que j'allais dire ces trucs-là, ces choses-là, le passé, le futur et le présent. Peut-être que vous en avez tous une définition, forcément, puisque on l'apprend à l'école, on l'apprend avec nos parents. On sait que quand notre parent nous dit « tu feras un dodo », voilà, c'était comme ça plutôt, « tu feras un dodo et ensuite tu verras papy et mamie » ou « tu feras un dodo et après on ira au cirque » ou « après trois dodos, ceci ou cela », ou bien ça fait déjà deux jours, c'était hier ton anniversaire, aujourd'hui c'est plus ton anniversaire. Ce qui arrive fréquemment quand vous avez des enfants. Si vous avez eu des enfants en bas âge, vous savez que c'est une difficulté pour l'enfant de se dire que l'anniversaire s'est cantonné à un seul jour, ce qui signifie souvent qu'il a beaucoup apprécié la fête en question. L'enfant est vite immergé dans cette différence entre le passé, le futur et le présent. Et on a donc tous une définition de ça. Alors je vais m'arrêter d'abord sur le passé. Et je vais me tourner tout simplement, de manière scolaire, vers le dictionnaire Larousse pour voir comment il définit le passé. Voici ce qui est écrit. « Ensemble des faits, des événements qui ont lieu avant le moment présent, les périodes actuelles et qui constituent l'histoire. » Je trouve assez intéressant et en même temps interpellant de constater que la définition du futur et du présent dans le dictionnaire Larousse ne se fonde pas sur la définition du passé. Il y a une très grande différence. Parce que, en fait, dans la définition du passé, vous avez entendu que j'ai parlé de ensemble des faits, des événements qui ont lieu avant le moment présent, période actuelle, bref, qui constitue l'histoire. Pour le futur, le dictionnaire Larousse, le même dictionnaire, dit que le futur se dit d'un temps, d'une période à venir, se dit de ce qui se produira dans le temps. Vous voyez la différence ? Et pour le présent, qui se trouve dans un lieu déterminé en se fondant essentiellement sur un événement. Pourquoi une telle disparité de définition avec ces trois mots qui, finalement, sont de la même famille, présent, passé, futur, des collègues ou des collaborateurs, finalement, avec l'étymologie de collaborateur qui vient de collaborare, qui veut dire qu'ils travaillent ensemble. Alors, je me suis permis de vous donner la définition du dictionnaire Larousse, ensemble des faits, des événements qui ont lieu avant le moment présent, la période actuelle, et qui constitue l'histoire. Et j'ai choisi, pour le futur et pour le présent, de m'adosser sur cette même définition que j'ai adaptée pour que ça nous paraisse plus clair. Alors, avant de m'arrêter sur un peu plus sur le présent, je vous donne la définition du futur. Ensemble des faits, des événements qui auront lieu après le moment présent, la période actuelle, et qui constitueront l'histoire. Et pour le présent, ensemble des faits, des événements qui ont lieu à l'instant, pendant la période actuelle, et qui constitueront l'histoire. Vous voyez que on appelle ça de l'herméneutique. C'est-à-dire que la manière dont le dictionnaire a choisi de donner sa définition semble ne pas être cohérente en suivant la même règle d'interprétation. Donc voilà, je ne vais pas aller secouer les académiciens de l'Académie française, dont je ne ferai jamais partie et auxquels je n'arrive même pas à la cheville, mais je voulais juste souligner cette apparente incohérence qui, pour ma part, complique quelque peu la lecture. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de vous donner trois définitions qui s'adossent l'une à l'autre et qui, finalement, permettent de mieux percevoir le contraste, parce que dans les trois cas, c'est l'ensemble des faits, des événements, soit qui ont eu lieu, soit qui auront lieu, soit qui ont lieu, respectivement, avant le moment présent, après le moment présent ou pendant le moment présent. Ça peut être assez simple de se souvenir de ces trois définitions, finalement, le passé, le futur et le présent. Je reviens sur le passé, je voudrais me focaliser sur le passé un peu plus avant d'aller développer davantage le futur et le présent. On est dans cette première partie qui consiste à parler de trois temps, trois missions. Passé, futur, présent. Nous venons de définir le passé. Et je trouve intéressant d'entendre que dans le domaine de la danse, spécifiquement dans la chorégraphie, le passé, c'est le temps de préparation à un pas plus important, ou c'est un temps d'élan à un saut ou à un tour. Ça veut dire que ça place bien les choses, avec déjà commençant à laisser poindre une signification ou un sens au passé, un temps de préparation. Finalement, le passé est passé, on ne peut plus le changer. On peut l'utiliser et on viendra plus loin sur cette dimension de l'utilisation du passé. Je voudrais juste mentionner quelque chose que j'ai lu dans Psychologie Magazine et qui a été évoqué avec Patrick Estrade, qui est psychothérapeute, entre autres, parce qu'il ne travaille pas que dans ce domaine-là, et qui dit que les bons souvenirs sont le jardin de notre mémoire. Dès lors, comme une fleur qu'il est nécessaire d'arroser, il est indispensable de les revivifier. Pensez par exemple à organiser des dîners souvenirs entre amis, à renouer avec vos meilleurs copains d'enfance ou d'études, et prenez également le temps de mettre à jour vos albums photos. Vous imaginez les albums photos physiques, mais aussi les albums photos souvenirs. Et il invite également à déposer les souvenirs qui font mal. Pour les souvenirs très douloureux, précise donc Patrick Estrade, n'essayez surtout pas de vous en débarrasser en les refoulant ou en les enterrant, ce qui reviendrait à nier une partie de vous-même. Et son invitation se poursuit dans un exercice où il propose de les déposer, plutôt que de chercher à les nier ou à les enterrer. Déposer ses souvenirs, et ça peut être en les écrivant, et je vous renvoie vers le podcast Rendez-vous avec vous-même, dans lequel j'explique l'intérêt du cahier de vie et de l'écriture intime. Et il dit de les écrire, de demander à un proche s'il veut bien être le dépositaire, par exemple, des souvenirs. On peut aussi les écrire pour les relire en son temps. On peut les écrire avec différentes phases d'exercice pour soi-même s'enrichir à partir de ses propres souvenirs. On viendra tout à l'heure sur le développement des missions de ces trois temps. Je veux d'abord continuer à les définir. On a défini le passé. Maintenant, venons sur le futur et je vous relis la définition aménagée, inspirée de la définition du passé proposée par le Larousse. Le futur est donc l'ensemble des faits et des événements qui auront lieu après le moment présent, la période actuelle, et qui constitueront l'histoire, ou autrement dit le passé. Le futur est donc aussi simple que ça. On n'a pas de mainmise sur le futur, on est juste en projection de ce que l'on pourrait vouloir vivre, des événements que l'on voudrait voir, ou bien en attente des événements qui vont se dérouler sur lesquels on n'a aucun contrôle. Et je rappelle juste qu'on n'a pas de contrôle sur les événements, on a du contrôle uniquement sur notre manière de vivre les événements. Et enfin, le présent, avec ma définition arrangée toujours, parce que ce n'est pas celle du Larousse, ensemble des faits, des événements qui ont lieu à l'instant, pendant la période actuelle, et qui constitueront l'histoire. Alors, ce qui est assez déroutant, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est que, vous voyez que ce que je vous ai donné à l'instant, la définition du présent, fait déjà partie du passé. C'est là que Sophie vient avec sa question, à laquelle je vais répondre de manière plus explicite, mais pour laquelle je mets déjà les fondements avant de donner une réponse. Je trouvais intéressant de mentionner Paul Denis qui dit que le présent est, au jour le jour, le destin essentiel du passé. Il est le résultat d'une élaboration psychique qui, à la fois, détache le sujet de ce qu'il vient de vivre et en garde l'élan. Donc le présent serait donc le destin essentiel du passé. Ça veut dire qu'on est conscient que ce que l'on vit au présent va faire partie de notre archivage passé. Ça va devenir passé alors qu'on est en train de le vivre. Alors on peut s'arrêter maintenant sur les missions du passé, du futur et du présent. Quelles sont les missions de chacun de ces temps ? La mission du passé, c'est de fonctionner dans un rôle de coulisse. Dans la coulisse, on va donc constituer une archive de ce qui s'est vécu. Et on est conscient, comme le dit Paul Denis, que cette archive-là va participer au destin du passé, mais elle va aussi participer, ou elle pourra participer dans la mesure où on va choisir qu'elle participe, à la construction de notre présent et de notre avenir. Parce qu'à partir du moment où l'on fait des choix sur le présent, ils vont impacter notre avenir. Autre mission du passé, c'est de faire poids d'expérience. Et qui dit poids d'expérience, ça veut dire qu'on va se retourner vers le passé en disant « Je me souviens avoir vécu ça, j'ai vécu telle expérience, tel ressenti, tel succès, tel échec, telle difficulté, j'ai entendu telle phrase ou telle manière de voir les choses, j'ai adopté telle croyance, je vais donc pouvoir, si je le souhaite, me retourner vers mes archives pour utiliser cette expérience. » Certains disent que l'expérience, c'est comme les allumettes, ça ne sert qu'une seule fois. Il y a du vrai et il y a du faux dans cette affirmation, dans la mesure où, quand une allumette a été utilisée une fois, elle peut servir une deuxième fois. Elle ne peut pas forcément servir à la même chose que la première fois, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir la craquer en frottant la boîte, par exemple, d'allumette. Mais on peut allumer un autre feu en utilisant une allumette qui a déjà épuisé son stock de soufre. On peut utiliser l'allumette qui a déjà brûlé pour construire des objets en allumette, par exemple. On peut utiliser une allumette pour faire tenir quelque chose, enfin s'amuser à faire comme fait ma belle-mère, des toupies avec des noyaux de litchi, par exemple. Vous voyez ? Donc l'allumette ne sert qu'une seule fois, comme l'expérience ne sert qu'une seule fois, pour une chose déterminée, mais elle peut servir à d'autres choses. Donc c'est quand même intéressant de se dire, oui, j'ai conscience que ce que j'ai vécu dans le passé ne peut pas me resservir pour la même chose que dans le passé, surtout que sur le plan rationnel, je ne peux pas revivre l'expérience du passé. Toute expérience à venir, ou présente, est nouvelle. Donc, ma manière d'utiliser mon allumette ou l'expérience acquise sera forcément nouvelle au présent comme dans un potentiel avenir. Troisième mission du passé, c'est d'éclairer pour mieux voir. Et on peut donc mieux voir grâce au passé le présent et l'avenir. Alors, c'est en même temps à double tranchant parce que certains vont utiliser le passé pour mettre davantage d'obscurité au présent et à l'avenir, en disant « je vais m'empêcher de vivre, m'empêcher de faire, étant donné que dans le passé, j'ai vécu telle et telle expérience et que, comme je l'ai considéré comme étant négatif, je ne veux surtout pas revivre quelque chose qui s'apparente à ce que j'ai expérimenté. Donc dans ce cas-là, on peut effectivement vivre en obscurantisme, les yeux fermés et cloîtrés quelque part pour s'empêcher au présent et au futur de vivre quelque chose qui nous a fait expérimenter de la peur, de la gêne, de la honte, une émotion a priori pas agréable à vivre. Une autre mission du passé est de pouvoir être convoqué au présent. Je fais exprès d'utiliser cette expression de convocation parce qu'en fait, on est dans une approche de sélection où, comme on va convoquer un collègue ou un subalterne, ou bref, en disant « voilà, viens, je te sollicite pour ». On est vraiment conscient par moment de faire appel à une page, un aspect du passé, contrairement à d'autres moments où le passé revient surgir au présent et on le subit, on a l'impression de le subir. Même si ce n'est pas vrai, on ne le subit pas, on l'a quand même sollicité. Mais dans la convocation, c'est vraiment conscient. On a choisi de donner rendez-vous à un événement passé au présent pour, avec une mission précise. Donc là, on passe de l'inconscient au conscient avec un choix, une sélection bien déterminée. Une autre mission est de confirmer les croyances acquises. À partir des moments où l'on a accepté de créer une nouvelle croyance, elle fait partie du passé, bien évidemment. Donc, on va chercher à confirmer parce qu'on a besoin d'être dans une cohérence. Notre cerveau déteste l'incohérence. Donc, on va chercher à confirmer ce qu'on croit déjà. Et ce qu'on croit déjà, c'est forcément dans le passé. Donc, on va chercher finalement à revalider, à revérifier et à redonner raison à notre manière de fonctionner, ce qui peut être un obstacle parfois pour apprendre de nouvelles manières de faire, d'agir, de penser et adopter de nouvelles croyances. Quand on a l'impression que la nouvelle croyance qui s'ouvre à nous là au présent peut mettre en péril la croyance acquise dans le passé. Et puis enfin, la mission du passé est de servir d'héritage, de legs, de ce que l'on a reçu de nos aïeux, de nos professeurs, de nos parents, de nos pères, et de ce qu'on va également léguer au présent à nos ayants droit, on pourrait dire, nos enfants, ou ceux qui sont sous notre responsabilité, qu'elle soit affective, culturelle, sociale, pédagogique, etc. Donc on a ces différentes missions du passé qui sont là. Je précise qu'on n'est pas dans une liste exhaustive. Je vous en ai donné 7. Il y en a bien plus que 7, ou il y en a qui peuvent être même fusionnés. Je vous laisse continuer à réfléchir aux missions du passé que je n'ai peut-être pas mentionnées ici. Je rappelle l'image de la coulisse dont j'ai parlé tout à l'heure. Imaginez dans une salle de spectacle, vous avez une coulisse avec notamment les loges et ce qui se passe derrière le rideau. Il y a la scène sur laquelle vont se passer des événements et puis il y a le script sur lequel on va trouver des éléments qui sont déjà écrits et qui nous attendent finalement, qui constituent le futur et on y viendra dans un instant. Dans une tribune qui a été écrite dans le journal Le Monde, la sociologue Eva Illouz observe que si l'histoire est nécessaire pour comprendre le présent, donc quelque part si le passé est nécessaire pour comprendre le présent, l'histoire n'est d'aucune utilité en temps de crise. Et je trouve intéressant que même si elle évoque les crises politiques et économiques, ça puisse concerner aussi certaines crises personnelles. Parce que dans certaines situations de vie, nous sommes capables de ne pas utiliser le passé, de faire fi du passé, de ne pas aller consulter les archives, de ne pas utiliser le poids de l'expérience ou l'éclairage acquis, etc. On peut être à côté de soi en ne consultant pas les pages de sa propre histoire, et c'est un petit peu dommage. La mission du futur. Alors, pour garder l'image de la scène, comme je dis, la coulisse, le script et la scène, eh bien, on est dans le script quand on parle du futur. C'est ce qui a déjà été écrit par l'auteur de la pièce ou du film, etc., et dans lequel on va rentrer. Donc, la mission du futur est de servir d'aspirateur en nourrissant l'envie. On a envie de dérouler les choses, on a envie d'entrer dans ce qui nous semble nous attendre, parce qu'en fait, il n'y a rien qui nous attend. C'est nous qui interprétons les choses comme ça. Deuxième mission du futur, c'est de devenir une ère de construction du présent à partir du passé. Finalement, le futur est l'endroit dans lequel on va pouvoir continuer à construire ce qu'on a commencé au présent. Troisième mission du futur, c'est le lieu de l'expérience acquise. On a acquis une expérience dans le passé, on l'expérimente au présent, et on va y venir dans quelques instants, mais c'est aussi avec la perspective de continuer à expérimenter, et peut-être de tirer profit dans le futur de ce qu'on a acquis. En termes d'expérience, je vous renvoie à l'image des allumettes, et c'est également dans la mission du futur de confirmer les croyances acquises. D'ailleurs, vous allez voir que, quel que soit le temps dans lequel on vit, on cherche à confirmer les croyances acquises, puisque je l'ai dit, nous avons besoin, notre cerveau a besoin de se référer à quelque chose qu'il connaît déjà, sans quoi il a le sentiment d'être en difficulté. Or, s'il a acquis une croyance, il a besoin de se baigner, de se vautrer dans cette croyance. Je voudrais vous partager un bout d'une étude réalisée au CHU de Caen par Laura Chartier, Francis Eustache et Peggy Kinette, et qui a été publiée dans Science Directe, eux qui travaillent tous les trois sur la mémoire humaine, et qui ont dit, dans le cadre de leur étude en neurophysiologie, que bien que l'on s'imagine tourné vers le passé, la mémoire s'avère également profondément tournée vers le futur, en permettant à la fois de réexpérimenter les événements de vie passée et de pré-expérimenter les événements à venir. La projection de soi dans le futur, également appelée pensée épisodique future, constitue dès lors une habileté favorable au développement individuel, tant dans les capacités d'adaptation qu'elle permet que dans les objectifs individuels et identitaires qu'elle crée à long terme. Et ils poursuivent en disant « Son socle épisodique la rend de fait sensible à toute altération de la mémoire, l'incapacité à mémoriser et à rappeler des événements du passé pouvant fortement altérer la capacité à imaginer des événements à venir. » Cette page d'étude de ces trois chercheurs est particulièrement intéressante quant à la place du passé, du futur et du présent, dans lequel on est dans la phase du futur, dans la pensée épisodique future, parce qu'en fait, on est vraiment dans des petits flashs futurs. On ne peut pas vivre dans le futur, puisque le futur n'existe pas encore. Donc on va avoir des petits flashs de projection dans le futur, mais on ne peut vivre qu'au présent, parce que c'est pareil, le passé n'existe plus, et quand on pense que l'on vit au passé, eh bien c'est un leurre, parce qu'on vit au présent, la remémoration du passé, mais on vit bien au présent. D'ailleurs, la mission du présent, qui se vit là cette fois-ci sur la scène, non plus en coulisses ou dans le script, qui prédit ce qui va être à vivre, eh bien, on va, avec le présent, mettre en œuvre, à partir du passé, donc l'expérience, quelque chose en se tendant vers l'avenir. Quelque part, c'est une manière de dire que le présent est un temps de passage, un temps éphémère, ce qui rejoint ce que j'ai évoqué la semaine dernière dans le podcast que j'ai publié et qui a fait l'objet de la question de Sophie. Deuxième mission du présent, c'est d'expérimenter les croyances acquises. Bien entendu, je vous avais prévenu, on retrouve la volonté d'exprimer des expériences acquises dans le présent, comme on le retrouve dans le futur. Et comme on le retrouve dans le passé, avec l'engrangement des expériences acquises. Troisième mission du présent, c'est d'expérimenter ce qui fait sens. Donc, on est encore dans cette quête de sens, parce qu'on a besoin d'être dans cette quête de sens, sans quoi on a envie de cesser de vivre, si on ne sait pas pourquoi ou dans quelle direction on va. C'est la quatrième mission du présent, c'est de valoriser l'héritage. Ce que l'on a reçu, on veut qu'il prenne de la valeur. Ça rejoint le fait de faire sens. On veut qu'il prenne des couleurs et des dimensions différentes, qu'il produise un résultat supérieur à celui qu'il a produit jusqu'alors. Enfin, une mission qui peut être... la dernière que je vais mentionner sur les missions du présent, c'est de propulser vers le futur. Personne ne vit le présent en étant uniquement dans le présent. Il n'y a que dans l'expérience de pleine conscience que l'on va se détacher du futur en conscience, parce qu'on va choisir de vivre là, ici et maintenant, dans l'instant présent. Mais si on n'est pas dans la pleine conscience, on vit dans une sorte de bascule vers le futur. Je voudrais juste, pour illustrer la situation, imaginez quelqu'un debout et on vit l'instant présent pleinement inscrit dans le présent quand la personne est debout dans une véritable verticalité, même si elle avance, même si elle marche. Par contre, on pourrait illustrer une personne qui vit et se propulse vers le futur en cherchant à minimiser l'importance du présent ou à ne pas profiter de l'importance du présent, en voyant cette personne marcher penchée vers l'avant. Elle est déjà tellement penchée vers l'avant qu'on sent que On pourrait interpréter cette démarche comme une sorte de fuite du présent. Et on pourrait également visualiser cette même personne ou une autre personne qui marche en se retournant en permanence alors qu'elle marche, et peut-être même légèrement penchée vers l'arrière, une personne qui voudrait vivre dans la remémoration du passé. Paul Denis, dont j'ai mentionné tout à l'heure le nom, a écrit « Il est important de distinguer le présent et l'actuel. Le présent s'inscrit dans une durée, et je rajoute même si elle est vraiment éphémère. Et il poursuit en précisant que l'actuel s'inscrit dans l'instant. Le présent prend un sens par rapport à ce qui précède et le suit. L'actuel, quant à lui, apparaît isolé de tout passé intelligible et ne promet rien que lui-même. Une rencontre se vit au présent. Un traumatisme se vit dans l'actuel. Le présent trouve et retrouve, alors que l'actuel est un présent qui ne retrouve rien. » Je trouve hyper enrichissante cette mention faite par Paul Denis, cette nuance entre le présent et l'actuel. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'actuel, on peut vivre une chose avec une intensité considérable, notamment un traumatisme, mais aussi quelque chose de hyper jouissif, où on est dans l'actuel, on n'est pas vraiment dans le présent, et qui peut être plus ou moins éphémère, évidemment, parce qu'à partir du moment où on est dans le présent, comme dans l'actuel, on est dans quelque chose de véritablement éphémère. Alors, qu'est-ce qui chamboule Sophie et qui la pousse à me poser la question « Est-ce que ça pourrait vouloir dire que le présent compte beaucoup moins, finalement ?» Puisque si vous regardez bien ces trois temps, le passé dure plus longtemps, le futur semble durer plus longtemps dans notre tête que le présent ou l'actuel. Est-ce que c'est parce qu'une chose dure longtemps qu'elle est plus importante ? Eh bien, la réponse est bah, pas forcément. Ou peut-être même non. Elle peut être très actuelle et être très importante. On vient de le mentionner avec le traumatisme. Donc il peut y avoir quelque chose de très éphémère, de très ponctuel, de traumatisant, et qui a été suspendu dans le temps, parce que ça n'a duré que quelques secondes, voire quelques minutes. Et c'est même également valable pour quelque chose d'hyper jouissif, que l'on peut vivre dans l'actuel, dans la pleine conscience du moment présent, et qui peut compter énormément, alors que c'est très éphémère et suspendu dans le temps. Donc j'entends bien que cette nouvelle manière de voir le présent puisse te chambouler, Sophie, et puisse vous chambouler, vous aussi qui m'écoutez. Cela dit, je ne pourrais pas dire que le présent compte moins, et je viens l'illustrer avec l'approche du traumatisme ou d'une sensation hyper satisfaisante. Je poursuivrai d'ailleurs avec une question, parce que en quoi serait-il aidant de considérer que le passé, le futur ou le présent comptent plus que... Et sur quelle échelle? Pourquoi? Sur quelle base? Donc c'est une question que, finalement, qui est difficile à percevoir et pour laquelle on a la réponse complexe dans la mesure où ça peut vraiment dépendre du parcours de chacun. Et j'aimerais bien, moi, personnellement, que qu'on ne crée pas de hiérarchie, de priorité ou de valeur supérieure au passé, au présent ou à l'avenir. Il me paraît plus sage d'envisager que tous ces temps-là se valent pour sortir de la tentative de donner plus de valeur à l'un qu'à l'autre. Pour moi, il serait de la même manière sans fondement de dire qu'une fourchette a plus de valeur qu'une cuillère ou qu'une petite cuillère. La valeur de chacun se révèle davantage dans l'usage. Et il en est de même pour les trois temps que l'on vient d'évoquer depuis le début de ce podcast. Je crois que nous avons la responsabilité de reconnaître la nature de chacun des temps pour les utiliser à bon escient. Et c'est à l'usage que nous reconnaîtrons leur valeur en utilisant leur richesse. Donc faire appel au passé peut être très utile, mais ça dépend pourquoi faire. Parce que si c'est pour fuir le présent, ou pour se réfugier dans des souvenirs et s'y dorloter, eh ben, ça peut être nuisible. De la même manière, le futur peut être très utile. Mais si il nous sert de fuite pour empêcher de vivre le présent ou oublier le passé, on en fait un mauvais usage. Donc en fait, c'est à nous de choisir d'utiliser le passé, le futur et le présent pour en faire bon usage, pour leur donner leur valeur, leur poids, les utiliser dans leurs missions respectives que j'ai pris le temps de développer pour que vous puissiez avoir cet éclairage et peut-être augmenter la prise de conscience de vos choix, de votre expérience de vie, pour vivre votre vie en mieux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye. Ce podcast vous a parlé, vous avez appris des choses enrichissantes et vous avez envie de le partager. Alors surtout, ne vous retenez pas. Là, ici et maintenant, dans le présent, partagez ce podcast avec des gens de votre entourage, surtout avec des personnes que vous voyez tourner vers le passé ou d'autres qui ont peur de l'avenir. Et puis on pourrait dire, dernière catégorie, ceux qui vivent le présent sans vraiment en profiter. Puis mettez vos commentaires, vos questions, vos étoiles sur les réseaux sociaux, sur Google Podcast, Apple Podcast, etc. Vous savez très bien que je compte sur vous.